Radio Sion, c'est votre nouvelle radio locale de l'île de Ré. Infos locales, météo sur l'île, sport, sorties ciné, agenda culturel et festif, concerts, événements incontournables, sans oublier tous vos tubes préférés, tout ce qui se passe sur l'île de Ré sera sur Radio Sion.
Aujourd'hui, je reçois Daniel Pétignot-Gros, maire sortante d'Ars. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien.
Alors, parlez bien près du micro, comme ça.
Voilà.
Voilà, impeccable. Vous êtes en campagne depuis quelque temps. Quel est votre ressenti ? Qu'est-ce que vous dit les gens quand vous les croisez ? Qu'est-ce qui ressort le plus ?
Qu'est-ce qui ressort le plus ? On dit que c'est courageux de se représenter.
Ok.
On dit que c'est courageux. On dit que c'est pas facile d'être maire. On dit qu'il y a des choses à faire, bien sûr, parce qu'on a toujours une demande permanente, ne serait-ce qu'en arrivant chez vous, des concitoyens sur un tas de problématiques. On dit que c'est compliqué aussi, parce que le métier de maire, ou la fonction, pas un métier, mais la fonction a changé. Mmh. On travaille avec la CDC, on travaille avec les services de l'État. Donc voilà, après quant aux résultats, on a des programmes qui sont un programme, qui s'étaye au fil du temps, qui se veut être pour tout le monde, pour toutes les populations d'Ars-en-Ré. Et voilà ce qu'on me dit.
Votre programme, parlons-en, justement, on va commencer par un élément important qui est le logement. Qu'est-ce que vous proposez pour le logement ?
Alors le logement, ça a été le point fort de la mandature précédente, puisqu'avec notre équipe, nous avons effectivement fait des achats pour le logement. Nous avons considéré que ce village, si on veut qu'il fonctionne correctement, il faut des logements pour des gens qui ne peuvent pas acheter au prix de l'immobilier actuel. On s'est dit aussi que pour qu'il y ait un bien-vivre dans Ars-en-Ré, il fallait aussi des services. Et actuellement, les personnes qui rendent les services et qui font partie des services ne peuvent pas se loger. Je vais prendre l'exemple de la maison de retraite, qui au moment de la chute de neige de cet hiver, n'a eu pas son personnel, le personnel n'a pas pu venir.
Okay.
Donc c'est effectivement le premier adjoint, plus les gens de la commission d'action sociale, qui pendant 2 jours sont allés changer les draps, apporter les repas. Donc c'est aussi pour permettre à tout ce personnel-là de pouvoir habiter dans Ars que nous avons fait le choix des logements. Logement à l'année, bien sûr. On a pensé aux jeunes, les saisonniers. On a pensé aux jeunes et aux saisonniers. Les jeunes, dans l'âne en culotte que nous avons acheté pendant ce mandat, nous pensons y mettre des jeunes qui veulent partir de chez eux, qui sont sur un espèce de tremplin, des apprentis qui n'ont pas les moyens d'avoir une grande location. Donc ça serait l'âne en culotte. Sur le Naturo, nous avons donc acheté un terrain pour y faire 5 maisons et un appartement qui seront vendus en accession à la propriété. C'est un programme qu'on appelle un bail réel solidaire. Il faut que ce soit un office foncier solidaire qui achète le terrain pour pouvoir y construire des maisons qui seront vendues à un prix tout à fait correct. Ce sont surtout des maisons qui vont rester pour des résidents principaux.
Okay.
C'est-à-dire que pendant 20, 30, 40, 50, 60 ans, nous aurons toujours des maisons pour des résidents principaux qui pourront être revendues, mais sans spéculation, et que pour des résidents principaux qui travaillent, en tout cas, sur l'île de Ré. Plus à Ars, mais en tout cas, l'île de Ré. Un autre programme qui s'appelle l'ENU, négociation avec les propriétaires en début de mandat. Donc nous avons acheté un terrain d'un hectare et nous allons y faire 20 logements en location sociale, et 10 logements, même chose, en accession à la propriété. C'est un portage de la communauté de communes, mais hier, j'étais déjà en réunion pour savoir quel serait l'aménageur choisi.
Okay.
Voilà notre position sur le logement.
Oui, parce que je vous disais, qu'il y a aussi beaucoup de questions par rapport au quota, par rapport à ce qu'est imposé, et par rapport à toutes ces maisons que l'on voit avec les volets fermés, et ça fait beaucoup parler. Ça fait beaucoup parler quand on voit la routière avec beaucoup de volets fermés. Est-ce que ça vous énerve pas, ça, de voir ça, de constater qu'il y a tout ça ?
Alors, s'énerver pour ça, non.
D'accord.
Par contre, bon, je connais bien l'association des volets ouverts. Et si vous voulez, en CDC, effectivement, il a été voté un plan local de l'habitat, un PLH, qui est une très, très bonne chose, mais qui mérite aussi d'être affiné. Le PLH actuellement bloque, si vous avez deux résidences secondaires, vous pouvez les louer quand même en résidence d'été. Mmh. D'accord. Le quota, il arrive. Sur Arsoré, le quota est à 241 maisons. Jusqu'en janvier, le quota n'était toujours pas atteint. Et je pense que, sous forme de pédagogie, effectivement, et d'exemplarité, on peut faire en sorte que des maisons qui étaient louées en meublé de tourisme passent en résidence secondaire. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est mon cas. Dans ma résidence de tourisme, je la passe en résident permanent.
Ok.
À part, ça a été fait au 1er septembre. Mm-hmm. Donc je pense, d'une part, donc, à l'exemplarité, mais aussi à un accompagnement des personnes. Je comprends que des familles ici qui ont hérité de maisons, qui ne veulent pas les louer à l'année parce que ça demande des travaux, c'est un ça. Engagement, louent pour deux mois d'été pour payer les charges, très clairement, mmh, bah oui. Et laissent un peu le bâtiment comme ça. Donc à la mairie, on a fait un travail aussi de pointage sur les logements vacants, mmh. Et nous allons nous adresser à tous les propriétaires pour s'assurer d'une part que ce sont bien des logements vacants, et s'ils le sont, de leur proposer effectivement un accompagnement avec la maison de l'habitat à Saint-Martin pour pouvoir faire évoluer leur habitation. Maintenant, sur le point des quotas en lui-même, on n'a pas assez de recul, très clairement. Ouais. Le quota sera appliqué au 1er juin 2026, sachant que quand on loue en meublé l'été, les gens qui sont partis au mois d'août vous disent à l'année prochaine.
Oui.
Donc on n'a pas assez de recul pour pouvoir analyser très clairement cette réglementation-là.
Cette mise en place, oui.
Elle a besoin d'être affinée, on a besoin de faire de la pédagogie. Ouais. Je vois que la maison de l'habitat fait un énorme travail, que la prive rénove redevient impossible. Donc il y a un accompagnement. Et je souhaite effectivement, pour avoir beaucoup discuté avec les Ouverts et Mme Chastanet en particulier, c'est qu'il y ait œuvre de pédagogie par rapport à cela.
Restons sur le logement et les bâtiments. Il y a un sujet qui fait couler beaucoup d'encre ici à Ars, c'est le fameux legs de cette maison. On en a parlé avec Pierre Boeuf et j'aime aussi en parler avec vous pour avoir votre sentiment par rapport à cette maison qui est apparemment en vente depuis longtemps. Il ne se passe rien. C'est un peu. On entend tout et n'importe quoi. J'aimerais
votre
avis.
Surtout n'importe quoi, si vous permettez. Mais
je vous permets.
1966, legs Poiseau. Le legs Poiseau est constitué d'une maison dans le centre-bourg, plus d'une autre maison qui se trouve à Grignon.
Okay.
La maison de Grignon sera vendue à un particulier sans problème par la municipalité précédente. Mm-hmm. Le legs Poiseau, nous faisons effectivement un état des lieux en 2020, mm-hmm. par les domaines et puis par la SEMDAS, une entreprise qui peut nous faire des devis. Nous arrivons à 600 et quelques mille euros de devis. Ce n'est pas satisfaisant pour nous, dans la mesure où on va avoir d'autres projets beaucoup plus intéressants, comme la Maison du Naturo ou la Maison des Saisonniers, qui offrent beaucoup plus de possibilités. Et nous allons laisser tomber cette Maison de Poiseau pendant un certain temps. Le 27 juillet 2024, nous faisons la proposition en conseil municipal de vendre ce legs Poiseau. Mmh. Une seule opposition, Monsieur Boeuf. Okay. Quant à Madame Flichy, Elle vote avec nous en disant « oui, on va le mettre à vendre », sachant que ce bien étant assez mal fichu, je reprends ses paroles, c'est assez mal fichu pour envisager une réhabilitation. Nous en sommes là. Maintenant, effectivement, nous avons eu des contacts pour se faire racheter la maison Poiseau et nous sommes en discussion.
Voilà, ah, donc ça veut dire que peut-être qu'elle sera vendue.
Voilà.
Ok, ça c'est une bonne
information.
Mais
nous sommes, je ne peux pas en dire plus, oui. Parce que rien n'est signé. D'accord. Nous sommes en discussion pour ou vendre la maison dans la totalité, ou la séparer en deux, donc ce qui pose des problèmes de bâti, tout simplement.
Bah oui.
Donc nous voyons ça avec un couvreur, et puis aussi avec les domaines. Nous attendons une réévaluation
oui.
des domaines pour cette maison, puisqu'on ne peut pas vendre ni acheter des biens sans avoir une estimation des domaines quand on est une municipalité.
Au moins, les choses comme ça sont claires. C'est important d'avoir plusieurs avis sur les choses. C'est très important d'avoir votre avis là-dessus. Dans votre programme aussi de maintenir un village vivant, vous voulez favoriser l'installation de commerces ouverts à l'année. Comment vous allez y arriver ?
Commerce à l'année, alors, pendant ce dernier mandat, là, nous avons quand même vu des nouveaux commerces installés sur Ars. La difficulté, c'est effectivement le loyer pour les commerçants, la difficulté de se loger. Mmh. Donc certains, effectivement, ont eu la chance d'avoir un logement à l'année assez rapidement, d'avoir un prix de loyer mais qui visiblement a convenu puisque la boutique est restée ouverte. C'est aussi une discussion avec ces commerçants en disant comment faire pour rester ouvert toute l'année. quels sont les prix que vous préconisez, les prix que vous proposez. Moi, j'ai eu des discussions avec un restaurateur en disant, si vous voulez rester à l'année, il faut de la bonne nourriture à un prix correct et ouvrir à une population qui n'est pas celle des touristes. Okay. Effectivement, cette personne, en l'occurrence, a joué le jeu pour proposer des menus tout à fait corrects et accessibles à tous les ouvriers qui viennent travailler. Il mm-hmm. faut savoir qu'il y a effectivement une possibilité, pour les commerces de bouche en tout cas, d'avoir du public toute l'année, puisque que ce soit alors, le commerce, parce que c'est une vieille maison ici,
oui,
bah qu'on
oui,
connaît bien,
évidemment.
Voilà, qui fait cet effort, mais il y en a d'autres aussi.
Ouais.
C'est aussi voir avec eux comment on peut, pour des nouveaux commerces qui s'installeraient, ben, peut-être réfléchir à une aide avec eux, de fonctionnement.
C'était une question qu'on vous avait posée lors de votre présentation de votre programme, qui avait demandé, mais pour un nouveau commerçant qui veut s'installer, ce serait bien que la mairie puisse acheter des bâtiments pour qu'on puisse être dedans. Et vous avez dit que c'était un peu compliqué. J'aimerais un peu que vous...
Alors, écoutez, nous sommes attaqués parce que nous avons trop dépensé à la mairie pour avoir acheté des biens. Moi, je veux bien. Je vais même vous donner un exemple de
j'ai
la zone artisanale.
Ça,
hein. Mais moi, je le dis.
D'accord. Je n'ai pas dit ça, mais allez-y.
Un bien de la zone artisanale, quand on est arrivé, il y a eu un bien qui était à vendre. Moi, l'idée de la zone artisanale, c'est effectivement, si on veut la conserver, c'est d'acheter le bien et de faire un peu comme les baux réels solidaires, c'est-à-dire on reste propriétaire du foncier et on vend la boutique, l'atelier qui est dessus. D'accord. Sauf que ce bien-là, il était à 700 000 euros.
Okay.
D'accord. Le dernier qui vient d'être vendu, il est à plus de 600 000 euros.
Ok.
Personnellement, si j'avais de la fortune sans compter, j'aurais acheté ces deux biens parce que c'est une possibilité d'ancrer des artisans sur le territoire.
Bien sûr.
Pour les commerces, c'est la même chose. Alors, nous avons déjà dépensé pour le logement, je pense que c'est assez vertueux. Mmh. C'est une somme. Quand on achète une maison à Ars, on est à 1 million d'euros. Là, il y a un commerce qui pourrait être acheté par la collectivité. On est à plus d'un million 500 000 avec à peu près autant de travaux. Mmh. Et il faut savoir que si une collectivité achète un bien, préempte un bien...
Ouais.
Elle doit le revendre dans les 3 ans.
Ok.
C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve un repreneur
c'est une information
dans
importante,
les 3 ans.
C'est sûr.
Voilà. Ouais. Donc, si vous voulez, nous avons fait le choix de ne pas encore acheter de commerce, sachant quand même que nous ne sommes pas un village complètement perdu.
Ah non.
Dans les années 2015, Monsieur Olivier avait fait faire une étude par la Chambre de commerce et d'industrie de la Charente-Maritime. Ars-en-Ré, pour la Charente-Maritime, était la deuxième meilleure placée pour tous les commerces et les services qu'elle proposait à l'année.
On va parler finance maintenant, parce qu'il y a un vrai questionnement d'un côté et de l'autre. Donc, d'un côté, Pierre Boff dit que les finances, c'est pas vraiment au top. Vous dites, et vous l'avez aussi clairement dit, les finances sont saines. Donc, on a deux discours là. Quel est votre discours par rapport aux finances? Dans quel état sont les finances?
Les finances sont saines, on l'a dit. Je peux vous le prouver. Quand, quand on s'appuie sur les finances, les résultats 2024 et qu'on s'en arrête là, effectivement, le ratio d'endettement est élevé, les emprunts sont élevés et l'excédent de fonctionnement n'est pas est moitié moins que celui du 2025. Il est vrai que le budget n'a pas été voté puisque en année d'élection, le budget est voté en avril 2026, donc fin avril. Le compte, si vous voulez, maintenant qu'on appelle un compte qui rejoint le compte administratif et le compte de gestion, qui s'appelle maintenant le CFU, le compte universel, a été terminé, c'est-à-dire que le budget a été clos en décembre.
Okay.
Et les résultats ont été communicables, hein, parce que la commission d'accès au droit nous donne l'autorisation de diffuser les comptes de 2025.
Donc vous avez le droit de le faire.
Je m'étonne un peu quand même que M. Blanchard, ayant été élu dans une petite ville de 915 habitants, ne connaisse pas le fonctionnement de finances sur une commune. Mme Flichy, qui a fait un mandat à Versailles et 2 mandats à Ars, qui fait partie de la commission des finances, ne se soit pas intéressée au sujet. Quant à M. Boeuf, effectivement, au Laurent, 10 000 habitants, peut-être que les budgets ne sont pas les mêmes, ne sont pas traités de la même manière. Donc effectivement, moi je peux vous assurer que pour 2025, nous avons un excédent de fonctionnement de 616 000 euros, que nous avons un budget d'investissement aussi, un excédent d'investissement, un budget, un excédent de fonctionnement de 1 450 147, un excédent de fonctionnement en investissement de 649 346, qui nous met en résultat de clôture 2 099 493 euros.
C'est précis.
Au 1er janvier 2026.
Okay.
Ce qui veut dire que lorsque nous allons toucher les impôts, nous allons commencer avec un budget suffisamment conséquent pour réaliser les projets proposés.
Ça, c'est clair, au moins. Les choses sont claires. Avant de parler du soutien local aux associations que vous voulez mettre en place, vous avez donc fait cette liste de colistiers. Et il y en a un qui est discret pour l'instant, mais il va commencer à parler, là. C'est Dominique Greiler, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ?
Eh bien, écoutez, ça va très bien et je vous remercie de nous recevoir aujourd'hui. Alors, effectivement, moi, j'habite à Ars. Mm-hmm. Ma famille est originaire d'ici, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je me présente aujourd'hui. Effectivement, j'ai ma famille très proche, donc à savoir mes enfants, mes petits-enfants qui vivent ici, à mes côtés, et c'est une joie énorme. Vous vous imaginez, pour un père, d'avoir ses enfants et ses petits-enfants à côté de soi, c'est quelque chose de formidable. Mmh. Donc moi, ce que je souhaite évoquer en ce moment,
ouais,
c'est que je me suis d'abord rapproché de Dany parce que je me suis dit, comme dans ma précédente carrière volontaire, on est plus fort à deux.
Mmh.
Voilà. Donc je me suis rapproché de Dany, nous en avons parlé longuement, et je pense que ses idées correspondent aux miennes.
Mmh.
Donc du coup, je me suis lancé dans la bataille, façon de dire, et nous avons travaillé ensemble, nous nous sommes exprimés, je suis arrivé avec plusieurs colistiers comme moi, et effectivement, nous avons travaillé, et nous apprécions tout à fait le travail qu'elle a pu réaliser, nous voulons continuer ses projets, et bien sûr, nous en avons d'autres.
Quels autres ?
Eh bien, donc, bah, comme l'a évoqué...
Non, parce qu'il y a beaucoup de sujets.
Non, bien sûr, il y a énormément de sujets.
Il
y a énormément de sujets, tout à fait. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc, je suis originaire d'ici.
Oui.
La plupart des habitants de la commune me connaissent.
Oui.
Parce que le fait d'être sapeur-pompier, vous imaginez, c'est quelque chose de fantastique.
Oui.
Je connais très bien le terrain.
Oui.
De par cette activité.
Bien sûr.
Et je suis prêt à mettre mes compétences au service de la population.
Exact, ça c'est important. Voilà. Et vous parlez, Madame le maire, de faire des réunions publiques, et ça c'est bien, de faire des réunions publiques avec les habitants pour leur donner plus la parole, pour qu'il y ait plus de liens entre vous et les habitants.
Bon, je fais un tout petit rapide rappel, 2020, Covid.
Ouais.
Voilà, toutes les envies de rencontrer la population ne se font pas.
On est d'accord.
Et puis après, j'ai un peu la tête dans le guidon dans la mairie et je vais passer vite là-dessus, ce qui n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que dans ce mandat-là, ayant acquis de l'expérience, nous allons proposer trois types de réunions. Réunion d'information, réunion descendante, on informe la population de sujets.
Okay.
Réunion de concertation pour demander aux citoyens ce qu'ils veulent. Je prends l'exemple de l'organisation du parking de l'après, là devant les nouveaux commerces. Et puis des commissions élargies. Pour le moment, nous n'avons pas encore établi les titres de nos commissions.
Okay.
Mais effectivement, l'idée de se faire accompagner par des experts, par des gens qui... Nous avons la chance, effectivement, à Ars, d'avoir beaucoup d'experts, des gens qui s'intéressent au village, qui ont envie d'être encourageants et de nous apporter aussi leurs connaissances.
Mmh.
Donc ce seront au niveau des commissions élargies. Voilà les trois types de fonctionnement que je propose et que nous proposons. En rajoutant deux choses, nous avons mis en place un plan communal de sauvegarde qui va nécessiter, effectivement... un apport de la population pour venir nous aider, vous savez, à 3h du matin, quand la mer monte et que la mer déborde. Voilà.
Mmh.
Donc c'est ce qu'on appelle une réserve civique.
D'accord.
Donc nous proposerons à des gens, en pleine forme, si possible, mais pas que,
ça aide.
Pour servir le café, ça peut être aussi
utile,
des gens qui de venir nous retrouver pour constituer cette réserve civique. Et puis aussi, une organisation qui s'appelle les heures civiques.
D'accord.
Qui ont été mises en place par la personne qui a fait les repas de quartier, vous savez. Cette heure civique, c'est effectivement une proposition pour les gens qui voudraient donner un coup de main au village. Voilà.
Quel soutien, on en parle beaucoup dans les débats, vous pensez apporter aux associations, qui est un tissu très important? Il y a beaucoup d'associations ici sur l'île de Ré, il y en a aussi ici à Ars-en-Ré. Quel soutien vous voulez leur apporter et qu'est-ce qui pourrait faire mieux?
Alors, en soutien aux associations... élus en 2020, nous avons augmenté chaque année le montant du budget des subventions.
Mmh.
Nous sommes à peu près à 70 000 euros de subventions. Ce que nous avons fait aussi, nous avons organisé dans l'ancienne salle des sports des box pour les associations pour faire du rangement, plus des placards au-dessus de la salle des fêtes, plus la capacité de la commune à prêter des salles. Et si on a beaucoup d'associations à Ars, sachez que la mairie étant généreuse, mais la précédente aussi, en tout cas sur les prêts des salles, ça c'est évident, les gens viennent à Ars, parce que quand on est association à Ars, on a le droit à des salles gratuites, on a le droit à des subventions, et puis aussi ce qu'on appelle les charges supplétives, que généralement on ne quantifie pas, mais qui sont l'électricité, le ménage, l'eau, le temps passé pour les agents techniques, parce que quand il y a une manifestation, quelle qu'elle soit, nos services techniques sont toujours disponibles pour donner un coup de main, et la police municipale aussi qui fait un gros travail d'organisation. Alors effectivement, j'ai entendu dire qu'on était un peu dur avec les associations. Je pense que rappeler à des associations que nous sommes sous le plan Vigipirate, ce n'est pas une incorrection. C'est même une obligation en tant que maire qui assurons la sécurité sur le village. Donc le travail qui est fait avec les associations, c'est de les rencontrer tous les ans. J'ai même mis en place, et à la CDC, parce que je suis vice-présidente aussi à la culture et au patrimoine, j'ai mis en place, depuis que je suis arrivée, la réunion de toutes les associations qui demandent de l'argent. Je les reçois avec un groupe d'élus aussi pour savoir ce qu'ils ont à proposer et que ce n'est pas une reconduction tacite de la subvention précédente, mais c'est plutôt une discussion à chaque fois sur le bien fondé et parfois un coup de pouce auquel elle ne s'attendait pas. Donc sachez quand même que nous sommes particulièrement généreux, particulièrement attentifs aux associations, parce que l'hiver, quand même, les associations sont extrêmement actives. Ce n'est pas un village sinistre, je me permets de le rappeler. C'est un village qui vit énormément grâce à toutes les associations qui exercent sur le village.
Il y a un point important aussi, je vous entends de là-dessus, c'est dans votre programme, on parlait d'investissement tout à l'heure, et le marché. Dans votre programme, c'est marqué la rénovation et l'amélioration du marché couvert. Qu'est-ce que vous allez faire ?
On va rénover le marché.
Ça j'ai compris. Mais comment vous allez vous y prendre ?
On a des problèmes structurels, hein, c'est-à-dire que le marché est vieillissant. Ça fait très très longtemps qu'il est là. On n'a pas eu beaucoup de travaux avant. Et là, effectivement, on s'est dit qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et moi, je n'ai pas l'habitude de retaper. Si on fait quelque chose, on le fait pour longtemps. Parce qu'on investit pour la commune. On investit pour l'avenir. C'est pour ça qu'on s'appelle Ars Demain. On va refaire un marché. Le permis de construire a été déposé. Il est purgé de tout recours. Donc les commerçants avec lesquels nous avons travaillé, sachez que l'architecte qui va faire le projet a reçu aussi individuellement tous les commerçants des Halles et des Auvents pour avoir leur ressenti, leurs demandes. Là, nous en sommes à l'organisation des nouveaux bancs à l'intérieur du marché. Ça a été validé la semaine dernière. Ça a été envoyé à tous les commerçants qui nous ont proposé de fermer dès le 31 août pour pouvoir commencer les travaux le 15 septembre. Voilà, et nous allons nous atteler à réinstaller les commerçants à partir du 1er septembre autour de la place de l'église pour ceux qui feront le choix de remonter sur la place pour pouvoir continuer à vendre.
D'accord.
Voilà.
Et combien de temps prendront ces travaux ?
Alors,
c'est estimé à combien de temps ?
C'est qu'on ferme au 31 août.
Mais faut rouvrir
et
le.
Et on ouvre au 1er avril.
C'est
2027.
Ça, j'allais dire, oula, ça va être chaud. Donc, hein.
Voilà, oui, ça va être chaud, mais nous sommes là-dessus. En tout cas, c'est la commande qu'on a passée aux architectes. Ensuite, pour une réunion de concertation, ce sera comment on aménage l'extérieur du marché, hein, puisque c'est pareil, les emplacements sont assez vieillissants, il y a des choses à faire. Donc voilà, mais on est prêt à ça.
Là, vous avez dit, vous avez passé des commandes. Pour le marché.
Oui. Bon, enfin,
est-ce que ça veut dire que la prochaine mandature, si c'est vous, ça va durer ? Si c'est bien vous, par exemple, est-ce que ça se fera quand même ou est-ce que ça va changer la donne ? Parce que ça, c'est important pour les commerçants. Il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ce marché.
Alors, le permis est déposé.
D'accord.
Et les investissements ont été votés au dernier conseil municipal. Donc ça a été voté à l'unanimité.
Donc il n'y a pas de raison.
Après, l'installation intérieure peut changer.
C'est ça. Mais le fait est que c'est acté,
c'est acté
qu'à fin août, c'est-à-dire les travaux, et l'objectif,
c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai été élue.
Ouais.
Le permis de construire de la rénovation de la base nautique a été acté, c'est moi qui ai suivi les travaux. Voilà. Mais nous n'avons pas, surtout pas, abandonné ce magnifique projet qui était l'école de voile.
Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur ?
L'intérêt général, monsieur.
Oui.
L'intérêt général et puis cette espèce effectivement de forme de mission de travail avec les citoyens, de faire que ce village reste un beau village, plus beau village de France. Je rappelle en plus que l'île de Ré a eu renouvelé son label d'arrêt d'histoire. Ça veut dire que c'est un constat par la DRAC, la Direction des Affaires Culturelles, de dire que l'île de Ré a un label. D'ailleurs, sur l'histoire du label, c'est l'île de Ré qui a eu le premier label pour une île. C'est de dire aussi que si on fait partie de ce label et qu'on est labellisé, on se doit de faire attention à son village, de faire attention à l'urbanisme, de faire attention aux plantes qui poussent et au bien-vivre de ce village, avec une évolution évidente puisque la mer monte aussi. Voilà. Mais c'est ça aussi qui me tient à cœur, c'est aussi de gérer l'argent des concitoyens. Alors je me mets un peu en opposition à la terminologie du bon père de famille, parce que je rappelle quand même...
J'allais y venir, oui.
Depuis l'égalité, la loi sur l'égalité réelle entre les hommes et les femmes... Le terme « bon père de famille » a disparu du Code civil le 6 août 2014.
Déjà ?
Oui, monsieur.
D'accord. Donc, en fait, vous allez agir en bonne mère de famille ?
Surtout pas. Ça s'appelle en responsable. En raisonnable,
pardon. Mais l'expression est restée. C'est ça que c'est.
Eh bien, elle ne devrait plus, monsieur.
Donc, c'est bien.
Elle est remplacée par raisonnable. Je pense qu'à l'heure de l'égalité des hommes-femmes, il est important, en plus, que les collectivités fassent attention à ce vocabulaire-là. Ce n'est pas parce que je suis une femme, c'est parce que...
Non, mais je sens que c'est sensible, là, chez vous. Hein. Ça, c'est important.
Évidemment.
Ça, c'est important.
Vous savez, une femme qui a du caractère, on dit qu'elle a mauvais caractère. Par contre, un homme qui a du caractère, on dit « Ah là, lui, il est bien, il a du caractère.
» Au moins, ça s'est fait, ça s'est placé. Quand vous baladez dans les rues, vous dites « Ah, ça, j'ai pas eu le temps de faire. Ça, j'ai pas eu le temps de faire. Ça, j'ai pas eu le temps de faire. Il faut que je le fasse. » Quel est votre sentiment quand vous baladez dans les rues ?
Ça dépend de l'humeur du matin.
Ce matin.
Non, j'ai envie de vous dire, beaucoup de choses ont été réalisées. Beaucoup de choses restent à réaliser. Maintenant, une mandature, c'est 6 ans. C'est des contraintes administratives. Et c'est aussi jongler avec les finances, puisqu'on en parle quand même.
Oui, bien sûr.
C'est aussi, et je l'avais mis dans mon projet de la fois dernière, je le remettrai, c'est aussi sensibiliser toutes les personnes à leur responsabilité dans un village. On est responsable dans son village. Tout le monde est responsable de tout.
Bien sûr.
À un moment donné, la collectivité ne peut pas prendre tout en charge, d'une part, mais elle peut inciter à, effectivement, une plus grande participation du citoyen qui vous dit tout à l'heure « c'est dégoûtant dans cette rue ». Bah oui, et alors, donc, mais est-ce que les personnes vont ramasser le papier qui traîne, sa crotte de chien, enfin voilà.
Les derniers problèmes dans toutes les villes, hein. Ça, c'est un problème de civilisation.
Voilà. Et je pense que dans un village comme celui-ci, à partir du moment où on aime ce village, on y vit, on y passe du temps, je pense que tout le monde a sa petite pierre à apporter.
Et comment on résout le problème du parking en été avec tous les touristes ?
Alors, une donnée que vous devez savoir, c'est que nous sommes dans un domaine très réservé. Nous avons un PLU, un plan local d'urbanisme intercommunal, qui a fléché des zonages. Tous nos parkings, là, doivent rester en terrain naturel. Donc, on ne mettra pas de bitume sur nos parkings, quoi qu'on en dise. Il y a un seul parking qui est estampillé parking, c'est celui de la Grange. On jongle avec ça. On voit avec l'inspectrice des sites, avec lesquels j'ai de très, très bons rapports, mais de dire, je fais un parking, je ne fais pas un parking. Si on ne bitume pas un parking, et à notre époque, c'est comme aussi assez malvenu, ben là, il y a de l'eau, donc on ferme les parkings. Bon. Élu, je continuerai avec la CDC à travailler sur le nouveau PLUI. Il est important qu'un village comme ici, qui ne sait pas, qui n'a pas augmenté sa surface habitable de beaucoup, parce qu'on est un petit village resserré, c'est de discuter quand même sur les zonages. On a besoin de parking, on a besoin de placer les voitures. On a besoin aussi que les gens rentrent leur voiture dans leur garage. Hein, je pense que si déjà les voitures allaient dans le garage, on en aurait un petit peu moins. Que les gens aussi acceptent de marcher. Nous avons fait un parking pour les artisans sur la zone artisanale. Il n'est pas toujours complet, voilà. Les gens préfèrent se garer un peu devant. Mais des parkings, on ne va pas en inventer partout actuellement, on ne peut pas. Donc c'est une discussion à avoir avec les services de l'État, avec le nouveau PLUI, et puis avec les personnes pour se dire est-ce qu'on peut mettre sa voiture un peu plus loin, prendre un vélo pour venir. Donc s'il y a une vraie réflexion, on l'amènera, on en a parlé. C'est un vrai souci,
oui,
une responsabilité collective, mais aussi, je vous dis, de la mairie, de discuter en disant est-ce que là, on va pouvoir quand même faire un parking parce qu'on en a besoin. Voilà.
Répondre aux besoins de la population, ça ne va pas être évident, ça, comme maire.
Bah, parce que les demandes sont multiples.
Mais c'est ça, justement. c'est pas la baguette magique. Hein.
Non, parce qu'on a quand même des contraintes structurelles sur Ars. On a un bâti ancien, un petit village qui ne s'est pas agrandi tellement. Juste après le pont, la construction du pont en 1988, Ars, c'est le village qui s'est le moins développé.
Ok.
On a eu des réserves foncières, mais Xintia est passée par là.
Ouais.
Les réserves foncières ont disparu. Et si le terrain des Nous est si cher à mon cœur et à notre cœur, c'est que nous avons réussi, avec le maire précédent a réussi, mais je faisais partie de son mandat, à obtenir quand même de l'État d'avoir ce terrain-là pour pouvoir construire. C'est peut-être un des derniers.
On va parler des projets culturels, parce que dans mon programme, vous marquez « organiser des événements culturels ». Qu'est-ce que vous pensez organiser ?
Alors organiser, vous savez qu'une mairie n'a pas vocation à organiser des manifestations culturelles, si ce n'est de former du personnel pour le faire.
Okay.
C'est un choix. Pour le moment, ce n'est pas encore complètement ce choix-là. C'est plutôt d'être force de proposition auprès des associations. Nous avons donc beaucoup d'associations, culturelles entre autres, hein, qui ont des tas de projets. C'est donc les soutenir financièrement et aussi les réunir pour voir s'ils ont des projets à faire en commun.
Mmh.
Quand j'ai été élue, parce que Mardi Gras pour Ars-Oré, c'est quelque chose d'important, ça a été mon petit projet culturel, peut-être pas assez ambitieux, mais en tout cas ambitieux pour nous.
Mmh.
En tout cas, qui nous a fait très plaisir, c'était de dire on va remettre Mardi Gras comme ça se faisait autrefois.
Mmh.
Toutes les associations ont répondu présent et ça continue. Et pour le plaisir et le bonheur de tout le monde.
Ça marche. Hein.
Maintenant, nous avons effectivement, j'ai beaucoup discuté avec la compagnie de théâtre La Mère Écrite, qui quand elle est arrivée au début, m'a dit « je voudrais faire un festival de théâtre ». J'étais enchantée.
Bah oui.
Sauf que porter un festival de théâtre, ce n'est pas rien.
Non.
Et peut-être que l'association à cette époque-là n'était pas assez mûre. Reprenant du service, si je suis élue, je retravaillerai cette idée de festival de théâtre parce que historiquement, Ars-Oré est un village qui a toujours reçu beaucoup de compagnies de théâtre.
Okay.
Autrefois, les gens, effectivement, il y avait des troupes de théâtre qui venaient et les gens du village apportaient leurs bancs pour assister à des pièces du répertoire.
Ah, génial.
Les Traiteaux de France sont venus ici très très longtemps. Et j'en veux pour preuve quand donc La Mère Écrite a proposé du théâtre pour Mardi Gras, comme ça se faisait autrefois.
Mmh.
Un engouement, on a revu les gens revenir rire aux pièces de théâtre. Donc il y a un public. Hein.
Les gens ont besoin de rire. Les gens ont besoin de rire.
Il y a un public pour le théâtre à Ars-Oré. C'est évident. Donc mon grand souhait, ce serait effectivement d'accompagner ce projet-là. Mais comme on accompagne celui d'Ars Spectacle ou qu'on accompagne celui des OFNI. Mmh. En fait, oui, nous avons du potentiel culturel. Faire participer les acteurs, toutes les personnes qui viennent en vacances à Ars-Oré, je ne suis pas sûre d'une part qu'elles aient envie toutes de passer leurs vacances à faire ce qu'elles font d'habitude.
Non, ça, c'est parce que généralement elles disent « je suis en vacances, voilà. Laissez-moi tranquille ».
En plus, vous avez quand même des agents.
Oui.
Moi, je me souviens très bien avoir demandé à mon ancien adjoint à la culture de demander aller à deux personnes de nous faire un petit concert comme ça. Non, l'agent a dit non, ça vous coûtera.
Ah non, il ne faut pas passer par l'agent. Il faut aller en direct.
Oui.
D'expérience.
Sauf que parfois, l'agent dit non.
Ah non, mais oui. Mais d'expérience,
en tout cas,
c'est mieux l'agent.
Oui. Oui.
En direct, c'est
mais
mieux.
Mais nous avons aidé des spectacles culturels venant de Paris sur la placette baptisée Gisèle Casadesus. Et nous avons reçu effectivement une petite fille Casadesus, une fille Casadesus qui sont venues dire des textes de théâtre. C'était remarquable.
Évidemment.
La sœur de Jean-Claude Casadesus nous a fait un texte remarquable l'année dernière. Donc encourager la culture, ça fait partie aussi de ce que je pense, parce que c'est aussi le lien, et c'était mon propos en 2020, c'est-à-dire que si on doit pouvoir rassembler les touristes, les gens, les résidents secondaires, les résidents principaux, c'est la culture qui le fera. Donc je suis toujours sur cette ligne de conduite, et mes colistiers tout à fait aussi. La salle de la Criée, qui va être un lieu culturel, a été payé, puisque ça a été construit par la CDC, va être géré par la CDC.
Mmh.
Mais j'ai demandé à ce que la commune d'Ars, les personnes en place, puissent rester et participer au choix de ce qui va se passer dans cette salle, qui est une salle remarquable, avec une vue exceptionnelle sur le chenal et le fjord d'Ars. Donc nous participerons à ce choix culturel. Nous irions bien sûr vers des résidences d'artistes, mais pas que. C'est-à-dire offrir peut-être aussi des lieux pour des associations qui ont des choses à montrer, que ce soit des associations patrimoniales, des associations culturelles, pour que ce lieu vive en tout cas, et que ce lieu puisse changer au fil du temps, au fil des besoins, et soit un lieu incontournable pour l'île de Ré. C'est un financement intercommunal, donc ça se doit aussi d'être reventilé aussi pour les autres villages. Mmh. Et puis nous avons effectivement acté le fait que ce serait un lieu quand même de résidence d'art plutôt contemporain.
Supposons, je vais aller voter dimanche, je ne sais pas, j'hésite entre deux listes. Quel est l'argument phare que vous me diriez pour que je sois décidé à voter pour vous ?
J'ai envie de dire une liste qui a des atouts dans le sens où une liste qui a des atouts parce qu'elle a la connaissance des dossiers, une liste honnête qui se veut pour l'intérêt général, qui se veut ouverte. Les bureaux de la mairie sont ouverts, vous pouvez aller demander tous les renseignements que vous voulez. C'est aussi une liste qui a appris beaucoup de choses pendant 6 ans. Puisque je repars avec des colistiers, puis des nouveaux colistiers qui ont envie d'avancer, qui ont envie de connaître le village, qui connaissent le village aussi, qui le font connaître à d'autres, mais aussi qui vont porter des projets qui sont déjà démarrés. C'est aussi une vraie volonté d'ouverture aux citoyens, de cette mise en place de communication qui est nouvelle, il faut le savoir. Les réseaux, la radio, l'écrit, c'est quelque chose qu'il faut qu'on utilise. C'est assez nouveau quand même dans le paysage politique. Donc voilà, une liste prête à travailler, c'est-à-dire que nous sommes élus le 23 mars, on continue.
J'ai oublié d'aborder un sujet qui est préoccupant pour les habitants, c'est l'éclairage. L'éclairage de nuit, quelle est votre proposition pour améliorer le fait que certains disent « j'ai peur la nuit de me faire agresser » Est-ce que vous avez une solution à apporter pour cet éclairage de nuit ?
Alors d'une part, l'éclairage, l'extinction à 23 heures a été votée aussi à l'unanimité, donc voilà, pour des raisons économiques. Hein, nous sommes juste après le Covid, des raisons économiques et des raisons environnementales. Ce mandat-là sera aussi un mandat tourné vers l'environnement, le respect de la biodiversité, parce qu'on en a vraiment besoin. Donc 23 heures, je sais que c'est peut-être trop tôt. Mmh. Je suis femme et je comprends qu'on puisse avoir peur à Arc-en-Ré, même à Arc-en-Ré, même si au départ, ça paraît un petit peu étonnant, on va dire. La proposition qui a été faite au conseil municipal, puisque vous l'avez cité, c'est d'avoir un portable. Maintenant, tout le monde a un portable. Le système J'allume ma rue, pour être très clair, application assez facile, ça a un coût, tout simplement. On est à un coût 60 000 euros la première année, mais ce n'est pas ça tellement le problème, en fait. Le problème, c'est que l'électricité dans un village comme ici est faite par le syndicat départemental de l'éclairage et électrification rurale. Nous sommes affiliés à ce syndicat. Il y aura un représentant dans notre liste qui siégera auprès du syndicat. C'est une façon pour nous de ne pas payer trop cher l'électricité et puis d'avoir un correspondant qui s'appelle Citeos qui travaille pour ce fameux syndicat. J'ai eu cette discussion avec le syndicat et avec Citeos en disant, écoutez, trouvez-nous un système, on est en 21e siècle, trouvez-moi un système. Pour le moment, le syndicat n'a pas tellement avancé. Alors, okay. Je vais vous dire une chose, je compte beaucoup pour la personne qui sera représentative de la mairie d'aller siéger au syndicat pour expliquer que maintenant, il faut passer à autre chose. Ça veut dire que ou bien on se libère du syndicat, on va quand même voir le côté coût avantage et puis inconvénient. S'il faut se passer d'eux, nous le chiffrerons. Si on doit effectivement investir, nous, la mairie, pour mettre des petites applications, des petits postes sur tous les réverbères.
Dès que quand on passe, ça s'allume, c'est ça ?
Et dans toutes les boîtes électriques. Faut racheter quelque chose, nous étudierons comme la faisabilité financière. Okay. Et en ce moment, si vous avez regardé dans le village, vous avez des points roses et oranges.
Oui.
Eh bien, figurez-vous que c'est la traçabilité de tous les réseaux électriques du village.
D'accord.
Donc le point va être fait pour savoir effectivement où sont les armoires électriques, où passent les câbles. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques incorrections, enfin en tout cas des choses qui ne sont pas dans les clous. Mmh. Donc je pense qu'on va en avoir le bilan assez rapidement. Mmh. Et nous allons faire en sorte qu'effectivement, on n'ait pas peur à Arc-en-Ré et qu'on puisse éclairer le village à 23 heures.
Au moins, les choses sont précisées. Dernière question. Si vous êtes élu, dimanche soir, quelle est la première chose que vous allez faire ?
On va remercier la population, figurez-vous, de nous faire confiance encore. Voilà. Et puis, la chose la plus rapide que nous mettrons en place, au-delà du fonctionnement normal d'une mairie qui continuera à fonctionner, c'est de mettre en place notre réunion d'information publique pour les logements. Il va être important parce que les logements seront finis en octobre 2029 au Noue. Au Naturo, je pense qu'on sera à peu près dans cette même période-là. Ça veut dire qu'il faut dire très vite aux gens, vous voulez acheter Ars-en-Ré, on va vous expliquer comment ça fonctionne, on va vous expliquer le prix pour qu'ils puissent se projeter. Hier, je proposais notre tract à quelqu'un qui a dit « Je ne vote pas à Ars parce que je n'ai pas de loyer, je n'ai pas de logement à Ars. » Et je sais qu'il y a des gens qui sont partis sur d'autres communes qui n'ont qu'une seule envie, c'est de revenir. Donc, notre réunion, la première d'information, et nous sommes tous d'accord là-dessus, ce sera pour informer la population de ce qu'ils vont pouvoir acheter sur le village. Voilà.
Merci Madame le maire d'être venue nous parler.
Avec grand plaisir.
Et bonne chance pour dimanche.
Et bien, très bien.
Radio Sillon, c'est votre nouvelle radio locale de l'île de Ré. Infos locales, météo sur l'île, sport, sorties ciné, agenda culturel et festif, concerts, événements incontournables, sans oublier tous vos tubes préférés, tout ce qui se passe sur l'île de Ré sera sur Radio Sillon.